Guerre et paix. Deuxième partie, chapitre 3, scène 21. Pierre se rendit chez Marie Dmitrievna et lui annonça qu'il s'était conformé en tout point à sa volonté et que Kouragine n'était plus à Moscou. Il trouva toute la maison bouleversée et consternée. Natacha était très gravement malade et Marie Dmitrievna lui confia, sous le sceau du plus grand secret, que dans la nuit qui avait suivi la révélation du mariage d'Anatole, elle s'était empoisonnée avec de l'arsenic qu'elle s'était procuré en cachette. Après avoir avalé une petite dose, la terreur s'était emparée d'elle et, réveillant Sonia, elle lui avait avoué ce qu'elle venait de faire. Comme on avait employé à temps les moyens les plus énergiques, tout danger était maintenant conjuré. Mais, comme son état de faiblesse s'opposait à un prochain départ, on avait prévenu la comtesse et on l'attendait bientôt. Pierre rencontra le comte, effaré, abattu, et Sonia, qui pleurait à chaudes larmes. Natacha était invisible. Il dîna ce jour-là au club. Chacun y parlait de l'événement manqué, mais il persista à le nier avec opiniâtreté. Il se disait qu'il était de son devoir d'étouffer cette triste affaire et de sauver la réputation de Natacha. Et il assurait à qui voulait l'entendre qu'elle avait tout simplement refusé la main de son beau-frère. Le retour du prince André lui inspirait une vive crainte. Les bruits de la ville étant parvenus aux oreilles du vieux prince, grâce à Mademoiselle Bourienne, il avait exigé qu'on lui montrât la lettre de refus envoyée par Natacha à la princesse Marie. Cette lecture l'avait mis de belle humeur et il attendait son fils avec une joyeuse impatience. Peu de jours après le départ d'Anatole, Pierre reçut enfin un mot du prince André, qui le priait de passer chez lui. Il était arrivé la veille au soir, et son père, lui remettant aussitôt le billet de Natacha, que Mademoiselle Bourienne avait traîtreusement enlevé à la princesse Marie, s'était plu à lui conter l'enlèvement de sa fiancée, en y ajoutant force détails de son invention. Pierre, qui s'attendait à le trouver dans un état semblable à celui de Natacha, fut frappé de surprise en entrant dans le salon, de l'entendre parler très haut et avec vivacité, dans la pièce voisine, d'une récente intrigue dont Speransky avait été la victime. La princesse Marie vint à sa rencontre en soupirant. Indiquant du regard le cabinet de son frère, elle essaya de témoigner de la sympathie à sa douleur. Mais Pierre lut sans peine sur sa figure la satisfaction que lui causait cette rupture et l'effet qu'avait produit sur elle la trahison de Natacha. Il assure qu'il s'y attendait, dit-elle. Sans doute sa fierté l'empêche de dire tout ce qu'il pense, mais quoi qu'il en soit, il se soumet avec beaucoup plus de philosophie que je ne m'y attendais.
Est-ce que vraiment la rupture est complète ?
Demanda Pierre. La princesse Marie le regarda, étonnée. Elle ne comprenait pas qu'on pût encore en douter. Pierre passa dans le cabinet. Son ami, en habit civil, debout en face de son père et du prince Mestchirski, discutait et gesticulait avec chaleur. Sa santé, on le voyait, s'était tout à fait rétablie, mais une nouvelle ride se creusait entre ses sourcils. Il parlait de Speransky, de son exil imprévu, de sa prétendue trahison, dont le bruit venait seulement de parvenir à Moscou.
Tout ce qui, il y a un mois, le portait au nu,
disait le prince André.
Cela même qui était incapable d'apprécier ses desseins, l'accuse et le condamne aujourd'hui. Rien n'est facile comme de juger un homme en disgrâce et de le rendre responsable des fautes qu'un autre a commises. Quant à moi, je soutiens que s'il a été fait quelque bien sous ce règne, c'est à lui seul qu'on le doit.
Il s'interrompit à la vue de Pierre. Un tressaillement nerveux passa sur son visage, et une violente irritation se peignit sur ses traits.
« La postérité lui rendra justice, »
ajouta-t-il.
« Ah, te voilà !»
continua-t-il en se tournant vers Pierre.
« Tu vas bien ? Il me semble que tu as encore engraissé. »
Et il reprit avec vivacité la discussion entamée pendant que la ride de son front s'accentuait de plus en plus.
« Oui, je vais bien. »
répondit-il à une question de Pierre, d'un air qui semblait dire
« Je me porte bien, mais qu'importe ma santé, qui intéresse-t-elle ?»
Après avoir échangé quelques mots avec lui sur le mauvais état des routes depuis la frontière de Pologne, sur les personnes qu'il avait vues et qui connaissaient Pierre, sur le gouverneur suisse, M. Dessalles, qu'il avait ramené pour son fils, il se mêla de nouveau, avec une vivacité toute croissante, à la conversation qui se continuait entre les deux vieillards.
S'il y avait eu trahison, on aurait des preuves de ses relations secrètes avec Napoléon, et ces preuves seraient livrées à la publicité. Personnellement,
poursuivit-il,
je n'ai jamais aimé Speransky, mais j'aime la justice.
Pierre devina que son ami éprouvait impérieusement le besoin, comme il l'avait si souvent éprouvé lui-même, de s'échauffer et de disputer sur un sujet quelconque, afin d'oublier, si c'était possible, et de chasser loin de lui des pensées par trop accablantes. Le prince Mestcherski ne tarda pas à les quitter, et le prince André, prenant le bras de Pierre, l'emmena dans sa chambre. Un lit de camp venait d'y être déballé, et des caisses, des malles ouvertes, gisaient tout autour. S'approchant de l'une d'elles, il en retira une cassette et y prit un paquet soigneusement enveloppé. Il garda le silence, et ses mouvements étaient brusques et saccadés. Se relevant avec vivacité, il hésita une seconde et, tournant vers Pierre un visage sombre,
« Pardon de te déranger, »
dit-il à travers ses lèvres serrées. Pierre, pressentant qu'il allait lui parler de Natacha, ne put dissimuler, sur sa bonne et large figure, un sentiment de sympathie et de compassion qui ne fit qu'augmenter la sourde irritation de son ami. André s'efforçait de prendre un ton ferme, mais sa voix sonnait faux.
« J'ai essuyé un refus de la part de la comtesse Rostov. » J'ai vaguement entendu parler d'une proposition ou de quelque chose de semblable qui lui aurait été faite par ton beau-frère. Est-ce vrai ? C'est vrai et ce n'est pas vrai,
répondit Pierre.
Voici ses lettres et son portrait,
poursuivit le prince André en l'interrompant.
Rends-les à la comtesse si tu la vois. Elle est très malade. Elle est donc ici ? Et le prince Kouraguine ?
Demanda-t-il vivement.
Il est parti il y a longtemps. Elle a été à toute extrémité. Sa maladie me fait beaucoup de peine.
Et le sourire méchant de son père passa sur ses lèvres serrées.
Monsieur Kouraguine ne l'a donc point honorée de sa main ? Il ne pouvait l'épouser étant marié. Et puis-je savoir où se trouve à présent monsieur votre beau-frère ? Il est allé à Peters. Je n'en sais rien, au juste. Ah, du reste, cela m'est indifférent. Tu diras à la comtesse Rostov qu'elle a toujours été et est encore parfaitement libre, et que je lui souhaite tout le bien possible.
Pierre prit le paquet de lettres. Le prince André, qui semblait chercher s'il n'avait rien oublié de tout ce qu'il avait à dire, et attendre que Pierre lui fît quelque autre confidence, l'interrogea du regard.
Écoutez-moi. « Rappelez-vous notre discussion à Pétersbourg. Je me la rappelle, je soutenais qu'il fallait pardonner à la femme tombée, mais je ne suis pas allé jusqu'à dire que je le ferai, le cas échéant. Je ne le puis pas. Le cas n'est pas le même, »
répliqua Pierre. Le prince André, sans le laisser achever, s'écria.
« Oui, aller redemander sa main, être généreux et ainsi de suite. » C'est très noble, certainement, mais je me sens incapable de marcher sur les brisées de Monsieur Kouraguine. Si tu tiens à rester mon ami, ne me parle plus jamais d'elle ni de tout cela. Et maintenant, adieu, tu lui remettras ses lettres, n'est-ce pas ?
Pierre le quitta et alla trouver la princesse Marie. Elle était en ce moment auprès de son vieux père, qui lui parut plus gai que de coutume. Rien qu'à les voir, il comprit tout de suite de quel mépris et de quelle inimitié ils étaient animés contre les Rostov, et qu'il était impossible de prononcer devant eux le nom de celle qui aurait pu, à tout prendre, trouver facilement un autre parti que le prince André. Il fut question à table de la guerre qui allait éclater. Le prince André parlait sans discontinuer, se querellant tantôt avec son père, tantôt avec Dessal, poussé par une excitation fébrile dont Pierre ne devinait que trop bien la cause.